Hello, hello, my friend. This is Priscille dans les petits bouchons. Et cette fois, je vous parle en direct de Amsterdam. Comme je vous avais dit dans mon dernier épisode sur mon voyage en Écosse, qu'on allait se retrouver assez rapidement. Alors, pourquoi est-ce que je suis à Amsterdam, outre le fait que je visite? En fait, j'ai profité du GTD Summit, c'est-à-dire du sommet Getting Things Done organisé par David Allen. Je me suis enregistrée cette année, je voulais absolument y participer. Pour une fois que c'est en Europe, c'était le moment de faire ça. En plus, je ne connais pas Amsterdam. Et donc, j'ai décidé de passer mes deux jours à GTD Summit, dont je vous parlerai dans un épisode, au moins un épisode de Productive View. Et puis de continuer donc mon week-end sur Amsterdam, puisque je ne connais pas. Voilà toute l'histoire. Et puis en plus, du coup, j'en ai parlé à ma copine Karine, et elle m'a rejoint, comme ça, on est ensemble pour visiter la ville. Donc les deux premiers jours, j'ai fait donc le Getting Things Done Summit, jeudi, vendredi. Et puis donc vendredi soir, ça se terminait vers 18h30, 19h même après, parce qu'on a bu un petit coup tous ensemble. Nous sommes partis avec Karine vadrouiller en ville, donc vers le centre. Alors on a pris, comme d'habitude, un Airbnb qui est super bien situé au bord du canal, enfin d'un des canaux en tout cas, et donc on est à pied à un petit kilomètre du centre, donc c'est vraiment très très bien, très pratique. Très bien situé dans un quartier calme, donc c'est génial. Donc après avoir un petit peu bourlingué comme ça dans les petites rues hier soir, nous avions décidé d'aller au quartier rouge, dans le quartier rouge, donc le quartier des prostituées, qui est donc un quartier assez réputé à Amsterdam, puisque nous voyons les jeunes femmes qui exercent cette profession derrière des vitres. Alors c'est un peu comme des vitrines de magasins. Et puis donc on les voit là derrière, et puis c'est le quartier rouge, puisqu'il y a des petites lumières rouges partout. Donc évidemment on n'a pas le droit de prendre de photos, bien évidemment. Donc des femmes plutôt très très jeunes, et alors c'est complètement blindé, mais blindé. Alors les rues sont étroites dans cette partie de la ville, il y a autour des canaux en plus, donc c'est pas vraiment pas très large, et c'est tellement rempli de monde qu'il y a donc des agents de circulation de la ville avec des gilets orange ou rouge qui guident, qui vous disent qu'il faut marcher sur tel côté de la route et pas tel côté pour qu'on puisse avoir quand même deux files de circulation. C'est impressionnant. Alors c'est très masculin hein, du coup là, la population dans ce coin-là, enfin, beaucoup plus masculin que le reste de la ville, je vous laisse deviner pourquoi. Et c'est archi, archi, archi blindé, c'est impressionnant. Donc il faut savoir que la prostitution est légale en Hollande. Et puis donc les jeunes personnes qui donc exercent cette profession-là, elles louent donc leur petit local. Apparemment ça marche comme des espèces d'équipes, hein, 24 heures sur 24, même s'il y a des heures creuses dans la journée. Et donc elles louent le petit local où elles reçoivent leurs clients. C'est assez curieux. Des jeunes femmes, donc tout ce qu'on a vu, vraiment très très jeunes, refaites de partout, ultra maquillées, enfin voilà, et puis dans des tenues extrêmement légères, bien évidemment. Donc assez curieux, hein, on n'a pas l'habitude de ça. Alors c'est sûr que ça ne ressemble pas du tout au tromblon qu'on peut voir quand on traverse le bois de Boubou à Paris. Mais voilà, bon, c'était à faire, nous l'avons fait. Alors cette zone est située donc le long d'un des canaux qui va directement se jeter à terme la mer, puisque cette partie donc de la ville a toujours été habitée par les prostituées, puisque ça date donc ça du 16e-17e siècle, ou notamment 17e siècle, ou à une période où ça s'appelle l'âge d'or, Amsterdam est devenu vraiment, en quelques décennies, une grande, grande ville commerciale, voire une des plus grandes places commerciales au monde à l'époque. Et on va en reparler un petit peu plus loin. Et donc forcément, ben, les navigateurs, les marins, voilà, il y avait quelques besoins à assouvir. Et donc, il y a des prostituées qui se sont installées, et les bonnes âmes de la ville ont donc décidé de tolérer la prostitution pour éviter que les marins ne se jettent sur la chair fraîche, les jeunes femmes, les jeunes filles habitant la ville, de bonne famille. Il fallait surtout pas y toucher, ce que l'on peut comprendre. Donc, entre guillemets, voilà, la prostitution était une façon de pallier et de sauvegarder la jeunesse locale. Tout ça avec la bénédiction de l'Église, mais là, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'était hier, donc on a quand même beaucoup marché, hein. Hier, j'ai fait pratiquement 20 000 pas dans la journée, et on est rentré assez tard, bien évidemment, parce que ça a duré un petit peu longtemps, notre visite de la ville by night, qui était vraiment très beau. Alors évidemment, il y a les petits canaux partout, les petites lumières, les petits bateaux, c'est ultra beau, franchement, adoré. Ce matin, nous sommes partis de bonne heure et de bonne humeur, et nous avions rendez-vous à 10h, au centre-ville toujours, pour faire un tour guidé à pied. Donc la société que nous avons utilisée s'appelle Freedom Tour, que je vous recommande. Donc c'est, on s'inscrit, on ne paye rien au moment de l'enregistrement, enfin de l'enregistrement de la souscription, si vous voulez dire, et c'est à l'issue du tour, en fait, que l'on donne un pourboire à la personne qui nous a fait visiter. Donc nous étions avec Sergio, et là, on a eu vraiment une visite top, donc je vous recommande vraiment. De toute façon, si vous préparez votre visite avec TripAdvisor, vous allez voir qu'ils n'ont que des 5 étoiles. Tout le monde est absolument enchanté de la visite. Ça vaut vraiment le détour. Ça fourmille d'anecdotes. Le guide, il est plein d'humour. Il connaît très bien le sujet. Il nous balade là dans la ville. C'est extrêmement intéressant. Ça dure 2h30 et on ne voit absolument pas le temps passer. En plus, on a un temps sublimissime. Donc, il ne fait pas très chaud, hein, il doit faire, je ne sais pas, 18-20 degrés. Donc le soleil a donné vraiment toute la journée. Donc c'était vraiment extrêmement agréable. Pas trop chaud, ni trop froid, parfait. Et donc là, nous avons commencé à côté de ce qu'on appelle la vieille église, Old Church. Et donc cette église a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la prostitution à Amsterdam. Alors pourquoi ? Alors déjà, c'était une église catholique qui est ensuite devenue une église protestante, puisqu'à l'époque où elle a été construite, c'était la religion catholique qui prédominait en Hollande. Et à cette époque-là, donc, la Hollande faisait partie de Saint-Empire romain. Et donc, les marins étant catholiques, ils devaient aller confesser leurs péchés et obtenir le pardon de leurs péchés. Et donc tout le monde sait qu'avec la religion catholique, c'est très simple, il suffit de payer. En tout cas, à cette époque-là, on achetait ce qu'on appelait des indulgences. Et donc là, à Amsterdam, c'est passé à un niveau supérieur. Alors déjà, dans toute l'Europe, il y avait ces indulgences, que plus on était riche, plus on avait le droit de faire des péchés, parce qu'il suffisait de payer un peu plus cher, et c'était bon. Donc là, ils ont mis en place un service dédié pour les marins. Donc, il y avait une petite porte sur le côté de l'église où les marins arrivaient et ils tombaient directement dans un confessionnal. Sauf qu'une fois qu'ils avaient fait leur confession de tout ce qu'ils avaient fait pendant la nuit, plutôt qu'on leur dise donc des prières hein, qu'ils devaient faire, ou pénitences, ou quoi que ce soit, en fait, il y avait une petite grille de prix, et en fonction de ce qu'ils avaient fait, hein, le curé y prenait petite note, et puis à la fin, il y avait la petite facture, voilà. Mais voilà, le problème, c'est que les églises, très tôt le matin, les navires, ils repartaient de bonne heure, donc tous les marins n'avaient pas le temps de pouvoir aller se confesser avant de reprendre le bateau, et ça les ennuyait beaucoup, jusqu'au jour où un prêtre a eu l'idée géniale de faire en fait des péchés prépayés. Voilà, donc c'est un peu c'est comme aujourd'hui les cartes téléphoniques prépayées, mais là c'était pareil. Donc le marin, avant même d'aller dans le quartier rouge, il passait à l'église, il allait raconter ce qu'il allait faire, et là il payait sa petite facture, et donc il avait Il était couvert pour ce qu'il allait faire ensuite. Hein, c'est quand même énorme, franchement. Si c'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas ce que c'est. Mais donc voilà, donc ils ont vraiment mis ça au goût du jour, et c'était pour expliquer comment à Amsterdam, il y avait un esprit d'entreprendre qui était déjà extrêmement présent, hein, même au sein de l'Église. Bon, ça, on ne doute pas que l'Église, de toute façon, est très, très marchante, mais quelle qu'elle soit, hein, je ne suis pas pour une religion plus qu'une autre, elles sont toutes à mettre pour moi dans le même panier et surtout à foutre au feu. Mais voilà, donc là, c'était les péchés prépayés. Donc voilà, la prostitution comme ça a pu continuer à s'étendre à Amsterdam. Et il y avait donc une tolérance de la prostitution, puisque de toute façon, ça rapportait quand même de l'argent. Et c'est la base, je dirais, de la Hollande et de Amsterdam. Et tout le monde vous dit, en Hollande, on est ultra, ultra tolérant. Donc on parle de la prostitution et on va parler de la drogue, de la marijuana, des coffee shops, etc., etc. Et en fait, cette tolérance, c'est tant que ça peut rapporter des sous, eh ben on ferme les yeux. Et c'est tout typiquement ce qui se passe aujourd'hui sur le commerce de la marijuana, puisque vous avez donc les coffee shops, où vous pouvez rentrer, et puis vous avez la petite menu, et le menu, il a des petites feuilles, et vous choisissez votre parfum, hein, en gros, et puis voilà, vous faites votre petite affaire. Alors qu'en Hollande, la marijuana n'est pas autorisée, hein, c'est pas en vente libre, c'est pas du tout quelque chose d'autorisé, c'est juste toléré dans les coffee shops. On a le droit aussi de se balader donc jusqu'à 5 grammes de marijuana sur soi pour sa petite consommation personnelle, et aussi de faire pousser jusqu'à 4 plants par personne dans son domicile. Néanmoins, la production à grande échelle et l'approvisionnement des coffee shops, elle est illégale. Cependant, les coffee shops, il faut bien qu'ils soient approvisionnés, hein, parce que je doute qu'ils aient tous une petite production dans la cave ou dans le toit, parce qu'il n'y a pas de cave en l'occurrence à Amsterdam, puisque tout est construit sur pilotis. Et donc ça, c'est un autre grande hypocrisie, quoi. C'est que je peux consommer dans le petit coffee shop, et le gouvernement ferme complètement les yeux sur la façon dont ces boutiques sont approvisionnées, forcément par des trafiquants de drogue, hein, parce que ça ne pousse pas le long des canaux. Mais ça, c'est, on ne connaît pas. Mais par contre, ça rapporte de l'argent, donc on laisse faire. Et ça, c'est absolument exceptionnel, hein. C'est tant que ça rapporte de l'argent, eh ben, on ferme les yeux. Sauf que ça a quand même eu des avantages, notamment dans les années 50-60, où il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont venus s'installer à Amsterdam et qui ont rapporté avec eux, il n'y avait pas que de la marijuana, ils sont venus surtout avec beaucoup d'opium et de l'héroïne, puisqu'avec l'opium on fait l'héroïne. Ce qui a fait que dans les années 60, comme c'était très toléré, il y a tout un tas de jeunes gens un peu hippies, machin, qui consommaient beaucoup. Ce qui a fait que dans les années 70 et 80, Amsterdam, en tout cas le centre, c'était un vaste champ de drogués. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de junkies qui erraient dans les rues, à tel point que les rues, les magasins étaient fermés. Il y avait des routes, des rues entières qui étaient appelées les chemins de l'héroïne, enfin des trucs absolument farfelus, épouvantables. Et le gouvernement a décidé à ce moment-là de créer la tolérance sur la marijuana, et ça a eu un effet de réduire la consommation d'héroïne, donc c'est plutôt positif, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Hollande est le pays en Europe avec le plus bas taux de consommation de l'héroïne. Voilà, donc ça s'est transféré, on va dire, sur la marijuana, si on peut dire. Donc ça, c'était pour parler un petit peu de la drogue. Amsterdam aussi, donc c'est devenu une ville très marchande, parce que c'est la ville qui a inventé la bourse, ou la bourse d'échange, hein, le stock exchange. Le but était, à l'époque, de financer des bateaux pour pouvoir aller à la conquête de l'Asie et à la conquête du marché des épices. La Hollande était un petit pays, ils n'avaient pas à l'époque beaucoup de moyens, ils n'avaient pas de bateau, ils n'avaient pas les cartes pour aller voyager. Donc ils se sont organisés pour faire venir des cartes en utilisant. Ils ont accepté donc à ce que des Juifs viennent s'installer, puisqu'ils étaient un peu persécutés partout en Europe, donc ils les ont accueillis en Hollande, moyennant un petit marché qui leur demandait d'aller voler des cartes au Portugal, notamment, pour expliquer comment est-ce qu'on se rendait en bateau en Asie. Et une fois qu'ils ont eu les cartes, ils se sont dit, il faut qu'on construise des bateaux. Et là, pareil, ils n'avaient pas forcément de flotte à cette époque-là, pas forcément les moyens, puisque entre-temps, le pays était passé donc du Saint-Empire romain à une république, une première république en Europe. Donc il n'y avait pas de roi comme dans les autres pays, comme en Espagne ou au Portugal, qui sponsorisait les grandes traversées vers les Amériques et autres. Donc là, on était une république. Donc ils ont créé la première société à actions, qui a donc levé des fonds dans tout le pays, et quasiment tout le monde avait des actions. Et avec cette société a créé des bateaux, plein de bateaux, ce qui est bien qu'au XVIIe siècle, la Hollande avait plus de 10 000 bateaux, soit plus que tous les autres pays européens réunis. Et avec ça, ils ont conquis donc l'Asie et les épices. Donc ils ont installé des comptoirs énormément en Indonésie, au Japon, en Chine, en Inde, etc. En Afrique, notamment en Afrique du Sud et d'autres pays en Amérique du Sud aussi. Et ils sont devenus donc les importateurs en Europe de ces épices qui vendaient avec des marges incroyables puisque c'était des marges à 800%. Voilà. Donc ils se sont très très vite enrichis. Avec ça, ils ont développé le marché des esclaves. Donc là aussi, c'est une grande part importante dans le marché des esclaves. Et ça a été un des tout derniers pays à d'ailleurs accepter d'abolir l'esclavage parce qu'ils avaient une part dedans extrêmement importante. Donc comme ils avaient des comptoirs en Afrique, bien évidemment, ils ont fait une triangulaire pour pouvoir approvisionner les Amériques avec les esclaves. Donc ils avaient, business is business. Et quoi que ce soit qu'on transporte, c'était toujours bon à prendre. Et puis voilà, donc ça n'a pas duré. Ils ont été aussi à l'origine de la première crise boursière qui a eu lieu en 1637, la culture des tulipes était aussi sponsorisée, entre guillemets, par des actions. Et il y a un moment, le marché de la tulipe a tellement flambé qu'un bulbe représentait l'équivalent actuel de 1 million d'euros. Donc ça a explosé, c'était le bulbe, la bulle du bulbe a explosé à ce moment-là et ça a été la première crise boursière mondiale qui a conduit à la ruine d'un certain nombre de familles à Amsterdam et en Hollande. Voilà, donc tout ça c'est ce que le petit jeune homme Sergio nous a expliqué sur la ville. Enfin, c'était absolument passionnant, plus tout un tas d'autres petites choses sur l'architecture. Alors, toute la ville, évidemment, a été construite à la base sur des marécages. Donc, c'est que de l'eau. On est sous le niveau de la mer. Donc, il y a des grands barrages, en fait, qui empêchent la mer de venir submerger toute une partie de la Hollande. Et puis tout est créé donc sur des pilotis. Les maisons sont extrêmement étroites puisque la taxe d'habitation entre guillemets est calculée avec l'emprise au sol. Donc plus c'est étroit, la hauteur n'a pas d'importance. Mais donc du coup il fallait que ce soit super étroit pour payer moins de taxes possible. Et en dessous donc on a des pilotis en bois qui maintiennent les maisons. Et donc ça peut être en fonction de la taille des maisons quelques dizaines à plusieurs milliers en fonction de la taille des bâtiments. La gare centrale d'Amsterdam et elle aussi par exemple sur des pilotis, donc là je sais plus, il y a des dizaines de milliers de pilotis, le jeune homme nous a dit le chiffre mais je ne m'en souviens plus, et puis toute l'eau sur laquelle il y a les maisons, donc l'eau est drainée pour être mise dans les canaux qui vont se jeter ensuite dans la rivière Amstel Et on essaye donc de drainer au maximum le sol, d'enlever la boue de ces canaux pour qu'ils soient à peu près navigables. Et c'est la boue séchée en fait qui fait un peu la terre sur laquelle on marche, hein, où il y a les rues et tout ça. Donc c'est très bien expliqué. Donc c'est très impressionnant, c'est absolument magnifique à voir cette ville, hein, au niveau architectural, tous ces petits canaux en plus partout, il y a des moments où on se croirait un peu à Venise, paraît-il, je ne suis pas encore allée, mais je vous raconterai si c'est effectivement le cas. Donc il y a des petites embarcations partout, il y a des petites péniches, il y a des bateaux qu'on peut aussi louer en tant que particulier, on peut dîner, il y en a qui faisaient des barbecues hier soir, c'est très sympa carrément sur le bateau, très très beau à voir. Donc ensuite, après cette visite à pied, donc de 2h30, nous sommes ensuite allés déjeuner et nous avions réservé une petite croisière. Alors il y a des très grands bateaux et puis il y en a des plus petits, donc nous on avait réservé un plus petit bateau, tout en bois, électrique, parce que la plupart des bateaux donc, sont électriques, parce que imaginez bien, ça sert à rien de faire rouler tout le monde à vélo et puis d'être très écolo si en plus dedans on a des milliers de bateaux qui crachent à mort de la fumée partout. Donc là les bateaux sont électriques, donc il n'y a pas de bruit et pas d'odeur, donc c'est quand même très agréable, enfin très peu de bruit en tout cas, et pas d'odeur. Donc là c'était un petit bateau, nous étions 20-25, tous mis en U un peu, avec des petites tables où on pouvait prendre du café, des boissons, etc. Et puis notre pilote était aussi notre guide, donc c'était assez flippant parce que du coup il mettait le bateau sur les rails entre guillemets, il venait nous parler, il recourait remettre la barre dans le bon sens, enfin c'était assez impressionnant. On passe sous des ponts super bas, donc les bateaux sont très très bas et les arches sont vraiment pas étroites. Hein. Alors le bateau il est d'une maniabilité, c'est absolument mais incroyable parce qu'on tourne immédiatement à 90 degrés, là hop ça passe sous les ponts, c'est impressionnant à voir. Et là, on a eu donc une autre vue de la ville. Et comme notre bateau était assez petit, en plus, on peut aller sur des canaux qui ne sont pas accessibles aux plus gros bateaux. Donc, on ne fait pas juste la visite typique de la ville avec les quelques grands monuments. On va vraiment dans des tout petits canaux. C'est magnifique. Et puis, on voit donc la ville d'un autre angle. Visite guidée là aussi. Donc, le pilote guide nous expliquait un peu l'histoire de la ville. Donc, quelques redondances, bien évidemment, avec l'histoire qu'on nous avait racontée le matin. Mais enfin, c'était concordant. Donc, c'était plutôt, c'était plutôt bien, plutôt rassurant sur ce qu'on nous avait raconté. Non, c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, les canaux ne sont pas profonds. Ils font à peu près 3 mètres de profondeur uniquement. Et il y a, de mémoire, 65 canaux. Il y en a quand même beaucoup. Et puis, il y en a un principal donc, qui se jette dans la rivière Amstel. Donc, Amstel qui a donné son nom à Amsterdam. Et de la rivière Amstel, ensuite, on peut aller jusque dans la mer. Donc, il y a tout un système de barrages et de vidage de ces canaux. Donc, les canaux sont vidés 3 fois par semaine. L'eau est rejetée à la mer et c'est de l'eau fraîche qui revient. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de mauvaise odeur, il n'y a pas d'eau stagnante, il n'y a pas de lentilles d'eau, de machin ou de truc. Il a sorti un moment un verre qu'il a pris dans le canal. C'est de l'eau hyper claire. Alors, elle n'est pas potable, bien évidemment, mais elle est hyper claire. Elle n'est pas du tout boueuse ou quoi que ce soit. Elle est presque aussi transparente que l'eau du robinet. Et parce que, voilà, elle est nettoyée, elle est chassée, rejetée à la mer et refont rentrer de l'eau. Avec un système de pompes, alors on nous a tout expliqué tout ça, mais en anglais, donc je ne voudrais pas vous redire tous les détails techniques. Il y a d'énormes pompes, des tas de barrages, pour éviter évidemment que l'eau de la mer ne submerge les terres qui sont sous le niveau de la mer, hein, je le rappelle, et pour en même temps éviter qu'on ait de l'eau stagnante avec des mauvaises odeurs, etc. Et puis ça tourne 3 fois par semaine, c'est comme ça nettoyé. C'est assez, assez impressionnant la façon dont tout cela fonctionne. Voilà, et puis et ben de là après, nous sommes allés faire un petit tour toujours à pied. On a fait quand même aujourd'hui pas loin de 14 km. Nous sommes passés devant la maison Banfranc, donc on a la maison qui ne se visite pas en tant que telle, hein, qui est toute petite maison, mais on voit une petite plaque. Et puis il y a un grand musée à côté. Alors là, ça doit être le seul lieu à Amsterdam qui est ouvert jusque tard le soir, parce que tous les monuments, les musées, tout ferme à 17h. Ça, c'est ouvert jusqu'à 22h. Et il faut avoir fait acheter son billet longtemps à l'avance. Il y avait une queue de plusieurs centaines de mètres devant l'entrée du musée. C'était impressionnant. Nous n'avons pas fait le choix, nous, d'aller visiter. Mais voilà, on est quand même passé devant. Et ensuite, nous sommes rentrés dîner. Et là, on va aller se coucher de bonne heure. Parce que nous sommes bien fatigués après toute la marche que nous avons fait. Demain, c'est le Rijksmuseum, qui est donc le principal musée de Amsterdam. Et ensuite, on rentre à Paris. Mais ça, je vous raconterai le Rijksmuseum demain. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette première visite. J'ai beaucoup aimé ces explications de l'esprit marchand qui anime la Hollande. Ils sont réputés pour être des marchands, ça date depuis des siècles. Et cette pseudo-tolérance qui n'est en fait que tant que c'est bon pour le business, bah, on tolère. Voilà. Donc c'est très, comment dire, très tourné business, quoi. C'est pas... Bon, enfin bon, au moins ils ont pas là, ils l'admettent. Je dirais, dans leur hypocrisie, ils admettent que c'est parce que c'est bon pour les affaires. Et comme dirait l'autre, l'argent n'a pas d'odeur. Voilà pour ma journée et demie sur la jolie ville, dans la jolie ville de Amsterdam en Hollande. Eh bien écoutez, demain je referai la suite pour vous expliquer notre dernière journée et le retour. Bye bye à tous, ciao.